relève la sauce. Un peu de sel, un peu de poivre. Et quelques épices. À la découverte de la vie associative. Mayonnaise.
Et oui, et bonjour à tous, et bienvenue justement dans cette émission On relève la sauce, donc l'émission du mois de décembre. Aujourd'hui, nous allons avoir au menu de cette émission, donc on va essayer de décrypter comme d'habitude quelques recettes, quelques ingrédients qui font justement la vie associative en Mayenne. Aujourd'hui, je vous propose deux portraits, le premier de l'association Lilavie et le deuxième de l'association Céleri 53. Ensuite, nous aurons les chroniques proposées par l'association de promotion de l'économie sociale et solidaire qui nous précisera justement la place de l'ESS en Mayenne avec quelques chiffres. Et pour finir, Christophe Tropeau, notre expert histoire des associations en Mayenne, revient sur la musique dite associative, c'est-à-dire les fanfares, les orchestres, et leur place importante dans l'essor l'essor associatif, justement, dans les campagnes mayennaises. Lutte contre l'illettrisme, accès à l'information, lien social. Voici quelques objectifs que développe justement l'association Lilavie par la promotion de du français dit simplifié. C'est ce que nous explique justement Véronique Jolivet, chargée de développement au sein de cette association.
Bonjour. L'association Lilavie, c'est une association lavalloise qui diffuse sur le plan national des journaux en français simplifié. L'idée est venue en fait de proposer un journal rédigé avec des phrases courtes et des mots simples pour faciliter l'accès à l'actualité pour des personnes en difficulté avec l'écrit. Donc le premier journal, le journal historique, était un journal destiné aux personnes sourdes, créé en 2000, Vite le sourd, parce que chez les sourds, il y a quelques années, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'illettrisme. Et depuis, il y a trois nouvelles publications, donc il s'est décliné. Vite l'Uninfea est destiné aux personnes d'origine étrangère en situation d'illettrisme. Okay. On a un journal destiné aux personnes âgées. Et le dernier, Vite l'Ulila, qui est destiné aux personnes en situation de handicap mental. En fait, nos articles sont rédigés avec des phrases courtes et des mots simples.
D'accord.
Des mots courants. Nos sujets sont remis toujours dans leur contexte pour donner toutes les clés de compréhension pour bien suivre l'actualité. On a deux numéros par semaine. La première page revient sur l'actualité nationale et internationale. Et la seconde page va être spécifique à chaque public.
Parce que tu vois, il y a un petit enjeu autour de l'accès à l'information et l'explication et la mise en contexte. Qui est-ce qui les rédige, ces articles-là? C'est une équipe ou est-ce que vous avez aussi, je dirais, une équipe de bénévoles aussi qui sont derrière
Alors, nous avons deux rédactrices professionnelles, salariées de l'association. Nous sommes quatre salariés à l'association aujourd'hui et nous sommes entourés, heureusement, de bénévoles pour nous accompagner dans tout ce qui est gestion de l'association, développement commercial, comptabilité.
Toute le background, la structure derrière ces parutions qui sont donc spécifiques en français simplifié, où est-ce qu'on peut les retrouver?
Nous diffusons nos publications sur abonnement. La plupart de nos abonnés sont des structures du champ médico-social, type maison de retraite, ESAT, IME, association d'insertion sociale. Donc pour recevoir nos journaux et les découvrir, on propose de les essayer pendant 3 semaines gratuitement et sans engagement. Et si cela convient, il y a un abonnement qui est d'environ 85 euros pour l'année.
D'accord. Est-ce qu'il y a aussi d'autres actions?
Alors, donc oui, ce que je disais, c'est que ça fait 22 ans D'accord. que l'on propose des journaux en français simplifiés. Donc, fort de cette expertise, on a proposé un service de retranscription en français simplifié ou en français facile à lire et à comprendre, qui est un autre style d'écriture. Donc, on adresse ces prestations à tout type de structures qui accueillent des publics qui peuvent être en difficulté avec l'écrit, des collectivités, des associations. Voilà, on étudie toute demande.
Qui est-ce qui fait appel à vous par exemple?
Alors, on a un partenariat historique avec le Foin de la Rue qui propose tous les ans un guide du festivalier en français facile à lire et à comprendre.
D'accord.
On propose également, on a eu des commandes du conseil régional.
Donc, tout le monde, tout type de structure peut faire appel à vous pour, entre guillemets, rendre encore plus accessible toute la communication écrite autour de leur structure. C'est ça?
Voilà, c'est ça.
Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres actions à mettre en avant pour l'association
Alors oui, on a un troisième service. Nous diffusons donc en accès libre sur notre site internet des dossiers thématiques qui sont également en français simplifié, qui sont illustrés par notre illustrateur Domas qui est à Marseille et qui réalise des BD sans parole notamment. On a une version en langue des signes française avec des traducteurs de l'association Arsine à Paris. Ces vidéos sont sous-titrées et nous avons une version audio de chaque dossier thématique sur des thèmes de société autour de l'environnement, de la citoyenneté, de la vie quotidienne, de la santé. L'idée, c'est d'offrir des supports pédagogiques pour approfondir en fait les sujets qui vont être traités dans nos journaux notamment.
Très bien. Est-ce que l'on peut contribuer ou peut-être vous proposer des sujets ou quelle est la possibilité de participation?
Alors, c'est vrai qu'on est toujours très ouvert. On propose à nos abonnés de nous adresser des sujets qu'ils souhaiteraient voir développés dans nos journaux, dans leur support. L'idée aussi, c'est que nos journaux servent de prétexte pour aborder certains sujets qui ne sont pas forcément faciles à aborder avec les publics qu'ils accompagnent. L'objectif du journal, c'est d'être un support au lien social. Donc, c'est que l'actualité soit un prétexte pour échanger, favoriser la transmission entre les participants d'un atelier.
Très bien. Toutes ces informations-là, on les retrouve sur votre site internet, c'est ça?
Voilà, www.lilavie.fr.
Et n'hésitez pas justement à aller sur leur site, comme indiqué, lilavie.fr, pour découvrir ces publications. On poursuit donc notre menu de cette émission avec un deuxième portrait d'association locale, celui de l'association CELRI 53, qui porte en fait un système d'échange local et aussi un Ripper Café sur Laval. Alors on va plus de précisions avec Claude et Amaury, membres de cette association.
Ce qu'on peut dire sur l'association du CELRI 53, c'est qu'elle est née en 1997.
D'accord.
Avec la participation de 4 ou 5 personnes qui ont mis ça en place. Uh-huh. Et très très vite, l'association a pris de l'ampleur, puisque au bout d'un an déjà, il y avait au moins une centaine de personnes qui adhéraient au système. Le système d'échange local, ça veut bien dire que c'est un système où les adhérents échangent entre eux des biens, des savoirs ou des services, et tout cela sans argent. Le but au départ, c'était de faire du lien social, se retrouver entre personnes. Et puis très très vite, le fait d'échanger des choses, des biens, des services, des savoirs aussi, entre adhérents. Et très vite, l'association a pris de l'ampleur.
Et donc là, on est à peu près à combien de personnes là?
Alors actuellement, nous sommes à 170 membres.
D'accord.
Une centaine de personnes sur Laval, puisqu'on parle de local, donc c'est le système d'échange local. Et il est préférable d'être le plus près possible, parce que pour faire un échange de services, par exemple, c'est très bien de ne pas avoir trop de distance.
Est-ce qu'on peut avoir un peu quelques exemples?
Par exemple, des tailles de haies avec certaines personnes.
D'accord.
Taille de haies. Mmh. Ça peut être du covoiturage. Ça peut être une entraide pour faire un petit chantier participatif. Mettons, notamment derrière moi, on a fait un petit atelier en bois, couvert après en bac à scier. Donc ça, on l'a fait avec plusieurs personnes. Donc ça veut dire que là, on emploie les compétences de chacun.
La mise à disposition de ces compétences.
C'est très important aussi.
Du coup, s'il n'y a pas cette question d'argent et donc sur cette mesure de l'investissement et des choses comme ça, comment est-ce qu'on échange? Quelle est la contrepartie est alors mise en place?
Eh bien, en fait, chaque personne qui, on va dire, emploie une autre personne, en échange, lui donne des minutes, c'est-à-dire une notion de temps.
D'accord.
Et cette personne-là, après avoir touché ses minutes, elle pourra aller chercher vers une autre personne un autre service ou un autre bien. La personne va recevoir 60 minutes, puisqu'elle a travaillé une heure. Et après, elle pourra demander à une autre personne. Donc, en fait, on marche en triangle. C'est un échange triangulaire. Elle pourra demander un autre service à une autre personne. Justement, tout est référencé sur un site.
Okay.
Alors, il faut savoir que les SEL, nous faisons partie d'un réseau national, puisqu'on compte actuellement environ 600 SEL dans la France. Et on a d'autres particularités, puisqu'il y a aussi la route des SEL. Quand on est adhérent à un SEL, on peut être aussi adhérent à la route des SEL. Et à part ce biais-là, aller dormir une nuit chez quelqu'un dans toute la France. Amaury pourra en parler d'un Repair Café que nous avons mis en place il y a 2 ou 3 ans.
Donc le Repair Café, c'est un atelier chapeauté par le SELRI, mais qui répond à un cahier des charges commun, puisque ce n'est pas une action... du SELRI à proprement parler. C'est des Repair Café, il y en a partout. C'est un concept qui est né aux Pays-Bas en 2008 suite à la crise économique. Et l'objectif, c'est que les gens viennent avec un objet, un appareil, pour tenter d'apprendre à le réparer eux-mêmes.
D'accord.
Avec l'aide des bénévoles experts présents sur l'atelier.
Est-ce que du coup, il se greffe au principe du SEL, c'est-à-dire qu'il y a aussi cet échange de minutes, où on est sur complètement une autre démarche?
Non, on est sur une autre organisation, mais comme je disais, qui répond à un cahier des charges du Repair Café, repaircafé.org. Donc, c'est un atelier qui est ouvert au grand public, qui n'est pas ouvert seulement aux adhérents du SEL.
D'accord, ok.
Donc, le principe, c'est que lorsqu'on est satisfait de la prestation, de l'aide des bénévoles, on peut mettre une petite pièce dans une tirelire, de manière à ce que nous, on puisse agrémenter l'atelier de café, de petits gâteaux. Tout comme son nom l'indique, c'est un Repair Café. Donc,
voilà, ça se passe aussi autour d'un café.
D'un café, et puis d'acheter éventuellement du petit matériel aussi.
D'accord, très bien. Où est-ce que ça se situe? Où est-ce qu'on veut, si jamais on veut se renseigner, est-ce qu'on peut donner quelques infos sur les lieux?
Alors, au niveau du SEL, nous avons un site, SELRI 53. SELRI Laval. Et donc les gens peuvent retrouver sur ce site les coordonnées de la personne à contacter. Notre siège social qui se trouve au quartier Ferrier, et là-bas nous espérons avoir bientôt un bureau en commun avec une autre association.
Très bien, voilà. Et pour le Repair Café du coup,
la maison de quartier du Bourny, le deuxième dimanche de chaque mois de 9h30 à midi pour les admissions, et jusqu'à 13h pour terminer les réparations en cours encore à midi.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir. Et oui, merci à l'association SELRI 53 et l'association Lille la vie qu'on a écouté juste avant. Petite précision, ces deux enregistrements, ces deux portraits ont donc été enregistrés lors du forum Explore Demain mis en place par l'APES le 15 novembre. Et justement, nous allons passer maintenant aux chroniques, dont celle de l'APES, mais avant, une petite chanson.
Joint rolling, I'm golden. Sorry for my fake Jamaican accent, it's revolting. Headed over to Sean Lee Studios and made me a song like Sister Studio. That's studio, he said. How about more like Watch Out Now by the Beat Nuts? So the other dude's beat sucks.
Having a fun time with this Christopher walking on sunshine. Today was a good day. Oh, today was a good day.
that's why we get along. A phenomenon, get the butter drawn. Yeah, Sean, till the break of dawn.
Do people even say that anymore?
Well, whatever, it's my song. Rockin' down the Audubon, rockin' salt and pepper song. Curtis Blow, P-Rock, D-Nice, I could go on and on. Lucky like a leprechaun with some gold and a rainbow. If you're sad, I say just let the pain go. You know what?
Nah, what?
Baby, I was talking to my friend, 8th One, today.
Mm-hmm, and what's that?
And you know what he told me? He said,
no.
Superstar.
Yeah.
Funny thing about life is, even when it's bad, it's good.
I'm sure, please.
Having a fun time with this Christopher walking on sunshine. Today was a good day.
Relève la sauce. Un peu de sel, un peu de poivre. Et quelques épices. À la découverte de la vie associative. Mayonnaise.
Et on poursuit cette émission avec la troisième chronique sur l'économie sociale et solidaire avec Janina Perka de l'APES. Bonjour Janina.
Bonjour Anthony.
Donc aujourd'hui, attention, nous allons parler chiffres. L'économie sociale et solidaire en Mayenne, c'est combien ?
Tout d'abord, j'aimerais bien faire une caractérisation du département de la Mayenne en comparaison avec les départements français. La Mayenne est le 30e département en termes d'emploi SS et dans l'emploi total, le SS représente 12,3%. Il faut dire que les collectivités sont aussi bien représentées en termes de l'emploi, 12% des emplois dans 11% des EPCI mayennais. Et puis, il y a un pourcentage quand même assez important des communes, 66% des communes, qui comptent au moins un établissement employeur de l'économie sociale et solidaire. Donc, il faut dire que des 101 départements français, la Mayenne est bien positionnée, 30e département.
Donc, beaucoup de structures qui rentrent justement dans le champ de l'économie sociale et solidaire et beaucoup aussi d'emplois. Voilà, il faut le dire, c'est un secteur qui emploie beaucoup. Et en ce qui concerne les associations, justement, où est-ce qu'on en est ?
Alors, il faut savoir que le nombre d'établissements et le nombre d'emplois ESS sont représentés quasi 78% dans le milieu associatif. Donc, on parle de quasi 10 000 emplois. Et puis, les autres statuts juridiques comptent le nombre d'emplois et d'établissements. Le milieu coopératif compte 18% d'emplois. Le milieu des mutuelles, 4%. Et les fondations, que 0,2% de l'emploi ESS. Si on continue cette description de l'emploi ESS en Mayenne. Il y a 5 secteurs d'activité le mieux représentés. Le premier, c'est le secteur de l'action sociale avec 59%. Le secteur des arts et spectacles avec 58%. Le secteur des activités financières et assurances, ici on parle des banques coopératives qui sont présentes en proximité, 55%. Le secteur sportif et loisirs, 38%, et l'enseignement, 33%.
Donc une part importante sur l'action sociale.
Oui, tout à fait. Voilà.
Et si on veut essayer de voir, donc là on a sur la répartition par secteur d'activité, et si on est sur les secteurs justement géographiques en Mayenne, qu'est-ce que ça donne ?
On parle bien à nouveau des Comcom.
Tout à fait.
Donc, comme je le disais au tout début, l'emploi ESS représente 12,3% de l'emploi public et privé en Mayenne. Et selon les EPCI, ce taux varie fortement, allant de 7,6% sur la communauté de communes du Mont des Avaloirs jusqu'à 20,2% sur la communauté de communes du Bocage Mayennais. Et sur la représentation des Comcom, Laval Agglomération est le mieux représenté, 46% des établissements et un tiers d'emploi à 56% d'emploi de l'ESS.
D'accord. Donc là, on commence à avoir un peu une cartographie de la Mayenne, mais est-ce qu'on a une évolution justement dans le temps ?
Alors, il y a une présentation de la conjoncture en Mayenne entre 2010 et 2021 où on remarque une baisse du nombre d'établissements, à savoir 60 établissements qui ont disparu. Et tout ça, c'est dû à des évolutions plutôt structurelles liées à la loi NOTRe qui a réorganisé le paysage communal et intercommunal en 2015, mais aussi le paysage législatif qui a contraint nombreuses associations, surtout dans le milieu médico-social et social, à se regrouper et faire disparaître les plus petites associations. Par contre, en termes d'emploi, la Mayenne compte des emplois complémentaires. Hein. Il y a 245 emplois supplémentaires pendant ces 11 années, soit une augmentation de 2,7%.
Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que même si justement le nombre de structures a diminué, c'est dû à des rassemblements, dû à des fusions, dû à des regroupements, on pourrait dire. Mais en tout cas, ce secteur prend de plus en plus de place.
En termes d'emploi, par contre, il faut quand même spécifier sur la période Covid, il y a eu quand même des disparitions d'emplois et c'est surtout l'emploi associatif qui en a pris plus. Quand même 415 emplois sur cette période. Et les secteurs d'activité qui ont été le plus touchés, c'est le secteur sportif.
D'accord.
Et secteur culturel.
Est-ce qu'on a d'autres données, d'autres explications, d'autres contextes qu'on pourrait mettre en avant sur sur la place de l'économie sociale en Mayenne ?
Des secteurs d'activité qui ont connu des fortes augmentations, c'est plutôt le secteur agricole, l'industrie, la construction, les services aux entreprises. Et c'est surtout au milieu agricole, les coopératives agricoles, les CUMA, voilà, qui ont connu une forte augmentation en termes d'emploi.
Donc on le rappelle, donc entre 2010 et 2021. Très bien, merci Jenia. Où est-ce qu'on peut retrouver justement toutes ces données ?
Alors, très bonne question. Nous travaillons avec l'Observatoire de la CRES des Pays de la Loire qui nous fournit toutes ces informations. Ces informations sont regroupées dans un document qui s'appelle Data 53 et vous pouvez le trouver sur le site de l'APES53.org.
Merci Janina et puis au mois prochain.
Merci Anthony, au mois prochain.
Et on se retrouve pour la 4e chronique autour de l'histoire des associations en Mayenne avec vous Christophe Tropeau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler de musique associative et en particulier de l'influence du répertoire de cette musique associative sur la musique dite traditionnelle. Alors, pour commencer, à quelle époque les sociétés musicales se développent-elles dans les campagnes mayennaises ?
Alors le grand moment des sociétés musicales, en Mayenne en particulier et en France en général, ce sont les premières décennies de la Troisième République, c'est-à-dire en gros les années qui vont de 1880 à 1900. Et donc l'essor de la musique associative est effectivement très lié au régime républicain qui l'encourage par des subventions qui vont lui être attribuées pour l'achat d'instruments et de partitions. Et donc pour la République, les sociétés musicales sont un moyen de mettre en avant des valeurs, une pratique collective avec une écoute collective, une nécessaire harmonie entre les musiciens, mais c'est aussi un moyen de faire entendre des airs républicains, au premier rang desquels la Marseillaise, qui est devenue l'hymne national en 1879.
Et donc ces premières sociétés musicales, à quoi ressemblent-elles ? Quel instrument est-ce qu'on y joue ? Et c'est combien de membres ?
Alors, Le mois dernier, nous avons parlé du rôle important des corps de sapeurs-pompiers dans l'essor associatif rural. Beaucoup de sociétés musicales sont nées en Mayenne au sein des sapeurs-pompiers. On a donc affaire en majorité à des fanfares, c'est-à-dire à des formations uniquement composées de cuivre, qui jouent d'abord de la musique militaire. Les harmonies, qui accueillent également des bois, sont relativement peu nombreuses. Quant aux sociétés philharmoniques, qui mêlent à la fois instrumentistes et choristes, et aux chorales, elles sont très rares en Mayenne. Quant à leur effectif, les sociétés rurales musicales comptent en moyenne 25 membres actifs. Les plus petites, comme la fanfare de Juvigné en 1887, tournent autour d'une quinzaine de musiciens. Les plus importantes, comme la musique du cercle Saint-Joseph d'Evron vers 1900, peuvent dépasser la cinquantaine de membres.
D'accord. Et en quoi justement la création de ces sociétés musicales dans les années 1880-1890 révolutionne-t-elle en fait la musique en Mayenne ?
Bien, tout d'abord, elles apportent de nouvelles habitudes. La plupart proposent des représentations régulières dans leur commune d'origine et alentour. Et elles se développent en même temps que la presse papier locale qui annonce toutes les semaines les lieux, les horaires et les programmes des représentations. Et certaines communes rurales comme Cran, par exemple, se dotent même d'un kiosque pour les représentations. Et cette représentation, elle dure en général une heure et suit un programme que l'on retrouve partout en France. D'abord une marche militaire, puis des œuvres de divertissement très variées comme des valses. Et puis on conclut par un hymne qui est le plus souvent la Marseillaise. Et donc les années 1880-1890 voient se développer un nombre important de compositeurs spécialisés dans la musique de fanfare. Et les chefs d'orchestre locaux n'ont que l'embarras du choix.
Et dans ces compositeurs, du coup, est-ce qu'il existe des compositeurs mayennais ?
Eh bien, tout à fait. En 1891, par exemple, l'Union musicale d'Evron a à son répertoire une polka intitulée « L'Evronaise » due à un certain monsieur Guétron, que je n'ai pas retrouvé par ailleurs. Et à la même époque, les fanfares du sud du département jouent « Rosita », une marche espagnole, et « Le Castro-Gontérien », une marche d'inspiration militaire. Deux œuvres composées par un compositeur local connu, qui est également chef de musique à Château-Gontier et à Louis-Julien de Schaeper.
D'accord. Et comment justement la musique dite traditionnelle, voilà justement des campagnes mayennaises, fait-elle face à toutes ces nouveautés musicales ?
Alors, on peut avoir l'image d'une musique traditionnelle, celle du joueur de violon, ce qu'on appelle le violonneux, qui anime les veillées, totalement balayé par la musique associative. Eh bien, en fait, pas du tout. D'ailleurs, les historiens préfèrent parler de coutume plutôt que de tradition, car la coutume, elle s'adapte, elle se renouvelle, alors que la tradition, elle se fige. Et les musiciens coutumiers, les violonneux, puis au début du XXe, les accordéonneux, ceux qui jouent de l'accordéon, viennent écouter les représentations des fanfares pendant les représentations publiques, et à l'oreille, reproduisent chez eux les airs entendus. Et en gros, la musique associative permet donc de renouveler le répertoire de la musique coutumière.
Alors, est-ce qu'on peut parler du coup d'une concurrence entre les musiciens associatifs et les musiciens hors association ?
Ben, je ne pense pas, parce qu'en fait, j'ai trouvé un très bel exemple que j'ai pu trouver, c'est à Saint-Denis de Gâtine, lors de la grande fête du dimanche 30 juillet 1905. La fanfare du village joue dans un square jusqu'à 1h du matin, elle anime ici un bal, puis la fête continue jusqu'au petit jour dans les cafés du village, au son de l'accordéon, de la flûte et du violon. Et donc, on a une musique associative et musique coutumière qui sont complémentaires, qui jouent à deux endroits différents, en deux moments différents, sans doute les mêmes airs. Et donc, la première, la musique associative, ne fait pas disparaître l'autre, bien au contraire, elle l'enrichit. Ce qui va faire, en fait, disparaître les deux sortes de musique, tout du moins les rendre moins présentes dans les campagnes, ce sont à partir des années 1920, les pianos mécaniques installés dans les cafés. Et entre-temps, la musique associative, elle a participé avec les corps de sapeurs-pompiers, avec les sociétés conscriptives et les clubs de sport à ouvrir le village sur l'extérieur grâce aux concours et grâce aux compétitions. Mais cela, je vous en parle le mois prochain.
Merci beaucoup, Christophe.
Au revoir.
En effet, merci beaucoup Christophe et d'ailleurs félicitations pour avoir obtenu une mention spéciale vie associative et éducation populaire délivrée par l'INJEP pour justement cette thèse source de ces très chouettes chroniques. Bravo! Et c'est déjà la fin de cette émission, et avant de vous laisser avec la suite des programmes sur l'autre radio, il me reste en fait juste à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, et à se donner rendez-vous, je dirais, l'année prochaine. Au revoir.